Bonsoir mes frères et sœurs. Quelle grâce est vraie de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Nous allons lire un verset dans le psaume 8. Un verset, le verset 4 et le verset 5. Psaume 8, verset 4 et verset 5. Deux questions dans ces versets qui nous en disent beaucoup sur l'intention de Dieu. Car je peux vous dire que beaucoup de gens croient en Dieu, mais ne comprennent pas les intentions de Dieu. Psaume 8, versets 4 et 5. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Voilà, deux questions auxquelles nous allons répondre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Alors le mieux, c'est peut-être de lire, pour comprendre cette histoire, une histoire dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 18, nous allons faire une longue lecture, ça ne vous gêne pas? Est-ce que quelqu'un est gêné par une longue lecture? Non. On devrait être gêné quand il n'y a pas de lecture. Genèse chapitre 18, verset, on va lire à partir du verset 17. Et nous allons lire jusqu'au verset 29 du chapitre 19. Voyons, on va faire une longue lecture, mais faisons-la consciencieusement. Et je vous encourage d'ailleurs à la noter, afin que vous compreniez encore mieux le sens de cette méditation, car je n'aurai pas le temps de tout aborder. Genèse 18, verset 17. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Je relis, Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste et le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste et avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ?» Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, si je ne la détruirai pas, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'y trouva-t-il que 40 justes ?» Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces 40. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes ?» Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. » Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouva-t-il 20 justes ?» Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 20. » Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Ça veut dire qu'il était responsable. Quand Lot les vit, Il se leva pour aller au-devant d'eux et il se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds et vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore au coucher que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, deux de mes filles n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici ?» Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel, l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit, parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et les deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Je répète, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit « Oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre n'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. » Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive ? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Ça, c'est un verset à souligner. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Vous gardez la page et nous allons faire une dernière lecture dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, nous allons lire le verset 26 au verset 30. Gardez la page du livre de la Genèse. Luc 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. N'oubliez pas, c'est Jésus qui parle. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Alors je vous pose d'abord une question. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Mais le problème, c'est qu'ils pensaient qu'à ça. Vous comprenez? Parce qu'il y a déjà, ils sont tellement spirituels qu'ils en négligent des choses normales. Ce qui est la preuve que quand Jésus va revenir, les gens vaqueront à leurs occupations normales. Le problème, ce n'est pas de manger, de boire, d'acheter, de vendre, de planter, de bâtir, et tout ce que vous voudrez. C'est de ne penser qu'à ça et de ne pas penser à Dieu. En tous les cas, le verset 30 est catégorique. Je vous rappelle, c'est Jésus qui parle, il en sera de même. Ça veut dire que c'est une prophétie. Alors, on a lu dans le psaume 8, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est une question qui est posée. Il faut qu'on puisse y répondre parce que les gens ne connaissent pas Dieu. On va voir. D'ailleurs, vous allez voir si vous le connaissez mieux à la fin de la réunion. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Dedans, il y a déjà la réponse. Ça nous prouve que Dieu prend garde à nous. Il s'occupe de nous, même si on ne va pas trop bien. Les hommes aujourd'hui ne veulent pas que Dieu s'occupe d'eux. Et Dieu veut s'occuper des hommes. Mais les gens ne veulent pas. Dieu se préoccupe-t-il de vous, de vos besoins? Est-ce que vous avez des besoins? Oui. Est-ce que vous avez des désirs? Est-ce que vous avez quelques désirs? Est-ce que c'est bien d'avoir des désirs? Oui, c'est bien. Il faut être équilibré. Est-ce que Dieu peut prendre soin de nos désirs? Est-ce que c'est écrit? C'est écrit dans le psaume 145, dans le psaume 37, dans le psaume 19, dans le psaume 20. C'est écrit à 4 reprises au moins que Dieu prend soin de nos désirs. Dieu donc prend soin de nous. Mais regardez ce que font les gens. Qu'est-ce que font les gens à la place de laisser Dieu s'occuper d'eux? Les gens, ils vont se confier. Je prends un exemple parce que parmi tant d'autres. Je n'en parle pas souvent, mais ce soir, je vais le faire. Les gens ont tendance à aller consulter les devins, les astrologues, les étoiles, les horoscopes. Vous avez remarqué que dans presque tous les journaux, il y a une colonne pour l'horoscope. J'ai même entendu il y a quelques années qu'il y avait des gens en Angleterre qui avaient porté plainte contre un journal parce qu'ils avaient oublié l'horoscope. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de jusqu'où les gens sont complètement fada à ce niveau. Et les gens pensent qu'une étoile, dans l'univers, je ne sais pas si vous vous rendez compte, une étoile quand même qui n'a ni cœur, ni respiration, etc., ni yeux, ni oreilles, a l'intelligence de les garder. Je ne veux pas être caricatural et mauvais et cynique, mais quand même. Il y en a même qui vont jusqu'à dire « je suis né sous une mauvaise étoile ». Vous l'avez jamais entendu ça? On l'entend, hein? Je dois être né sous une mauvaise étoile. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes étoiles? Est-ce qu'il y a des mauvaises étoiles? Moi, je sais que Dieu a placé les étoiles dans le ciel pour diriger, pas pour diriger notre avenir, mais pour nous éclairer. J'ai lu dernièrement sur un site astronomique qu'il y a des savants qui... Ça, c'est une parenthèse, mais c'est pour vous montrer quand même. Les savants qui expliquaient que si, compte tenu de l'intensité des milliards d'étoiles et de la lumière qu'elle envoie, même la nuit devrait faire jour, tellement il y a de la lumière qui vient sur la Terre. Et ils ne savent pas expliquer par quel hasard la nuit, c'est noir, malgré le fait qu'on soit quand même éclairé. Vous voyez? Normalement, le soleil, vous avez vu le soleil, la lumière qu'il donne. Mais les milliards d'étoiles des dimensions astronomiques devraient éclairer la Terre. Ils n'arrivent pas à comprendre. C'est encore une merveille de notre Seigneur. En tous les cas, les gens se confient dans les étoiles et je tiens à vous dire que c'est une abomination. On va le lire quand même, c'est un petit peu après. Parce qu'il y a des chrétiens, un chrétien, moi je lis l'horoscope, c'est pour rire. Moi je peux vous dire que depuis ma conversion, je n'ai jamais lu un horoscope. Pourquoi? Parce que c'est une abomination et qu'on ne rit pas avec ce qui est une abomination. Et comme les gens des fois doutent, lisez avec moi dans le Deutéronome chapitre 18. C'est sérieux ces choses, on ne doit pas rire. Dieu prend soin de nous, Dieu va se souvenir de nous. La preuve dans cette exhortation de ce soir. Mais regardez, textes que vous pouvez apprendre par cœur pour aider justement des gens. Moi, j'ai vu une voyante qui s'est convertie en lisant ce psaume, ce texte, pardon, Deutéronome 18, verset 10. Je vous promets, je l'ai vu de mes yeux, une voyante qui s'est convertie en lisant ce texte. Elle a compris que la voyance, c'était une abomination. Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure de magicien, etc. On peut le lire. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ceux qui font du spiritisme, vous voyez. Après, on s'étonne que des gens soient possédés. Qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Donc, quand les gens prient les morts, ça vous donne déjà une idée dans le traquenard dans lequel ils sont en train de s'embarquer. Car quiconque fait ces choses est en bénédiction au Seigneur. Vous avez vu ? Est en abomination à l'Éternel. Et on s'étonne que là, Dieu résiste à certaines personnes. Donc, c'est grave. Alors, moi je sais une chose. Je ne sais pas quand est-ce que vous êtes né. Je sais une chose. Vous savez quand est-ce qu'on est béni ? Quand on est né entre le 1er janvier et le 31 décembre. Voilà mon horoscope à moi. Ça vous convient ? Voilà, on peut être béni n'importe quel jour de l'année. Mais c'est grave, là je fais un peu d'humour. Mais il n'y a pas besoin de savoir ce qui se passera demain ou après-demain. Le lendemain aura soin de lui-même si votre vie est entre les mains du Seigneur. Donc, le psaume 8 est catégorique. Dieu se préoccupe-t-il de nous ? Dieu prend-il soin de nous ? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire ? On l'a vu dans cette histoire où on voit un homme, deux chrétiens on voit, deux croyants, parce que les chrétiens c'est le nom qui a été donné après dans le Nouveau Testament. On voit deux croyants, un qui connaît Dieu, d'ailleurs il est dit « cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Il a une communion avec Dieu, et un autre qui est en plein centre-ville, d'un endroit qui va connaître la colère de Dieu et qui n'est au courant de rien. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui développent une intimité avec Dieu et il n'y a pas besoin d'être très compétent pour comprendre que la colère de Dieu, elle vient. Et des chrétiens qui n'y voient rien du tout. Mais une chose est sûre, Dieu se souvient de nous. On pourrait dire, est-ce que Dieu se souvient de moi ? Eh bien, oui. Bien sûr, si vous vous éloignez de Dieu et que vous cherchez à comprendre l'avenir dans l'astrologie, laissez-moi vous dire que vous ne le connaîtrez jamais. Vous connaîtrez autre chose. Mais ça fait du bien de savoir que Dieu se souvient de moi. Non ? Ça ne vous fait pas du bien de savoir ? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de moi ? Seigneur, tu vois ce que je vis en ce moment ? Est-ce qu'on peut avoir des luttes ? Est-ce qu'on peut traverser des moments où les luttes sont difficiles, les combats ? Dieu se souvient de moi, ça veut dire Dieu se souvient de mes larmes, parce qu'il faut être pratique. Dieu se souvient de mes combats, de mes peines, de ma maladie. Je suis malade. Est-ce que Dieu peut se souvenir de quelqu'un qui est malade ce soir et le guérir ? Eh oui, c'est ça. Quand Dieu dit Dieu se souvient de moi, c'est pas philosophique, c'est pratique. Et Dieu, il veut intervenir. Et cette histoire, elle est là dans la Bible. En plus, Jésus, il fait allusion par rapport au jour où il va revenir, qu'il en sera de même. Alors, je ne sais pas, vous, ce que vous pensez de cette histoire, ce que vous avez lu avec moi. Vous l'aviez déjà lu ? Vous aviez déjà lu cette histoire ? Vous la relirez, vous la relirez, et vous découvrirez comment Dieu s'occupe de l'homme. Est-ce que Dieu peut s'occuper de nous ? Vous avez vu ce verset ? Moi, c'est le verset qui m'a interpellé depuis dimanche, d'ailleurs, depuis dimanche soir. Parce que je réfléchissais au texte qu'avait utilisé Jonathan pour les chants, le psaume 8, et j'avais ce verset, que Dieu se souvienne de nous. Et j'ai pensé à l'autre, quand on a lu, on peut le relire quand même, parce que c'est le verset clé de la prédication de ce soir, Genèse 19, verset 16, et je vous assure que l'autre, ce n'était pas le meilleur croyant de l'Église de l'époque. Hein ? Qu'est-ce qu'il est dit ? Regardez bien, parce que c'est pour nous, c'est pour les gens de votre famille. Il y a des gens que vous aimez ? Il y a des rétrogrades que vous aimez ? Non ? Regardez ce qui est écrit. Il faut comprendre, la parole de Dieu, elle est pratique. Car l'Éternel voulait, qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible ? Il voulait l'épargner. Alléluia ! Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on n'étudie pas la Bible. Il faut comprendre une chose, que ce que Dieu a fait pour Lot, il veut le faire pour les gens de notre famille. Qui ne sont pas au parfum, que le Seigneur Jésus va revenir, que la colère de Dieu va revenir. Dieu voulait sauver Lot. Il aurait pu le juger, il aurait pu condamner, il aurait pu accabler. C'est facile de juger, de condamner, d'accabler, même s'il y a des fois la compréhension de ces choses sur le jugement. Mais qu'est-ce que Dieu dit ? Dieu dit qu'il veut le sauver. Moi, ça me rassure, moi, de savoir que Dieu veut sauver les rétrogrades. Ça ne vous rassure pas ? Moi, ça me fait du bien. Nous avons une description un petit peu de Sodome et Gomorre. Vous avez vu ? Il y a quelques textes dans la Bible qui en parlent, on n'a pas le temps de le faire. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, vivre à la sodomie ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, vivre à la sodomie ? Vous savez ce que ça veut dire ? La violence, la méchanceté, la pornographie, la sexualité débridée, parce qu'il y a la bonne sexualité dans le cadre du couple, et la mauvaise sexualité en dehors. Les débordements, etc. Vivre à la sodomie, ça veut dire vivre dans la corruption. Et dans ces deux villes, c'était la pagaille. Alors je vous pose une question. Est-ce qu'on va vers Sodome et Gomorre ou est-ce qu'on a dépassé Sodome et Gomorre ? C'est une question qu'on peut poser, c'est archi utile. Moi, je m'intéresse pas, bien sûr, à ces choses, mais le peu que je peux percevoir ou entendre me laisse croire qu'on a dépassé Sodome et Gomorre. Je le pense vraiment. Notre sujet à nous, ce n'est pas de parler de la corruption, peut-être un peu de comprendre que si on a dépassé Sodome et Gomorre, et sans être méchant, c'est qu'on peut se douter que le jugement va venir, oui ou non ? Ce qui est intéressant pour nous ce soir, ce qui est le sujet de ma méditation, c'est que Dieu s'intéressait à un homme. Je ne sais pas si l'autre s'intéressait à Dieu. Parce que là, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que vous vous intéressiez à Dieu quand vous l'avez rencontré ? Ou est-ce que c'est Dieu qui s'intéressait à vous ? C'est des questions intelligentes, ça. Vous voyez, pour une fois, je me suis appliqué. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était vous qui vous intéressiez à Dieu ou c'était Dieu qui s'intéressait à vous ? Moi, je pense, plus les années passent, et je ne pense pas me tromper, je suis sûr que c'est le Seigneur qui s'intéressait à nous. Heureusement, c'est une bénédiction. Quel est cet homme que Dieu veut sauver ? Parce que c'est intéressant. Il faut faire la projection parce que ça va nous encourager à intercéder et ça va nous intéresser, ça va nous encourager à croire que ce que Dieu a fait pour l'autre, il va le faire pour les rétrogrades que nous connaissons. Alléluia ! C'est ça le but. Vous savez, ce matin, je lisais le psaume 19 quand il est dit « Mais la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'homme. » Beaucoup de chrétiens, ils lisent la Bible, ils ne sont jamais restaurés. Ils lisent, ça reste au niveau du cervelet, mais quand ça descend dans le cœur, elle restaure votre âme. Gloire à Dieu. Et c'est ce qu'on veut vivre ce soir. Mais qui est ce l'autre ? Qui est cet homme que Dieu veut sauver ? Et ça doit nous intéresser. Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Dieu pour que Dieu retarde le jugement ? Il empêche le jugement pour sauver l'autre. Vous l'avez lu avec moi ? On a lu une longue lecture. Vous vous rendez compte ? Verset 22. Mais il faut les lire. Il faut les lire. On le lit. Moi, je l'ai lu 100 fois, 200 fois. Et je peux vous dire, c'est que quand je médite pour préparer des réunions, que je comprends certainement mieux ce qui est écrit. Genèse 19, verset 22. Regardez ce que Dieu dit au travers de l'ange. « Hâte-toi de t'y réfugier. » Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Mais vous vous rendez compte ? Le Dieu que nous avons, qui empêche le jugement pour sauver un homme. Et pour cet homme-là, franchement, ce n'est pas le meilleur de la Bible, je vous le dis. Qu'est-ce que c'est cet homme ? Sur le plan de la moralité, tiens, on va parler de l'autre soir, heureusement qu'il n'est pas là. Sur le plan de la moralité, vous trouvez que c'était un brave frère, ça ? Vous avez vu ce qu'il a fait ? Ce qu'il a dit pour ses filles. Moi, je me serais battu à mort pour sauver mes filles. Je suis sûr. Oui ou non ? Donc, sur le plan de la moralité, il y avait déjà des petits problèmes. Il était gentil, Abraham. Tant qu'il a suivi tonton, il était gentil. Et vous savez que c'est important. Ce matin, je lisais dans les chroniques quand il est dit que Ozias a marché avec Dieu tant qu'il y avait Zacharie. Et des fois, il y a des gens qui marchent avec Dieu tant qu'ils sont bien accompagnés. Quand on est mal accompagné, ça peut vite déraper. Donc, sa foi n'était pas grande. La foi de l'autre, on ne peut pas dire qu'elle était grande. On en est dû qu'il y avait un respect des choses de Dieu. Alors, je vous le dis quand même, parce qu'on peut s'étonner, mais comment ça se fait que cet homme, il était juste ? ça vous étonne pas? Trois fois dans le Nouveau Testament, il est dit l'autre le juste. Moi, ça m'a fait avaler la salive plusieurs fois. Ah, mais je sérieusement. Et c'est pas une image. Je dis, mais c'est pas possible. Alors, moi, j'ai demandé à Dieu qu'il me le montre. Et c'est au verset 3 du chapitre 19 qu'on comprend. Si un jour on vous dit, mais pourquoi Lot était juste? Eh bien, vous pourrez répondre avec le verset 3. Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui, entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et il fit cuire des pains sans levain. Vous y réfléchirez. Et vous comprendrez, si vous connaissez l'Ancien Testament, que malgré tout, il y avait le souci de respecter la parole. Le pain sans levain, ça représente une vie sans péché. Ça représente les gens qui sont, malgré tout ce qui ne va pas, il reste sous le sang du Seigneur Jésus. Mais ça, c'est un autre sujet. En tous les cas, cet homme, il n'a pas de grande qualité. Mais cette histoire, elle est là. Parce que quand même, on a besoin des fois d'être encouragé par rapport aux gens qui ne sont pas bien, mais que Dieu veut sauver. C'est important, mes frères et sœurs. Si nous sommes ici ce soir, c'est pour comprendre deux choses. La première, c'est que nous pouvons ressembler à Abraham, qui avait une intimité de plus en plus grande avec Dieu. Dieu lui dit, mais je ne peux pas lui cacher ce que je vais faire. Il y a des gens, ils savent. Moi, je ne peux pas dire que j'ai une grande communion avec Dieu, je m'y applique, mais moi, je peux vous dire que la colère de Dieu, elle vient. Elle vient, la colère de Dieu, ça c'est sûr. Et Lot, il est dans une ville immorale, il l'a choisi, c'est lui qui a fait un mauvais choix, c'est un égoïste. On peut dire que c'est un égoïste. Quand le troupeau d'Abraham a grandi avec ses troupeaux, il a fallu qu'il choisisse, il a choisi pour lui, alors qu'il aurait dû laisser son oncle choisir. Il a choisi pour lui, il aurait dû se retrouver, il voulait rester aux portes de la ville, on le voit là, paf, au centre de la ville, il est aux portes de la ville, donc il fait partie du conseil municipal de la ville. Mais cet homme-là qui est un égoïste, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut le sauver. Alors, ce chapitre, bon, il est cossu ce chapitre. Parce qu'il nous amène à répondre à des questions. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui très intelligents qui disent, oui, si Dieu était juste. Tiens, c'est une question ça. Vous avez vu comment on est malheureux quand un pays souffre de l'injustice. Vous avez vu, notre système de justice, il n'est pas au top. Et beaucoup de gens souffrent, d'accord? Bon. Mais aujourd'hui, les gens disent, ah, si Dieu était juste, il interviendrait. Vous êtes d'accord? C'est ce que les gens disent, d'une manière générale. Alors, je vais vous dire une chose. Si on a dépassé Sodome et Gomorre, vous allez comprendre vite. Si l'immoralité est supérieure à ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorre, qu'est-ce que je dois tirer comme conclusion? Si Dieu doit agir, vous me suivez? Soyons simples. Vous comprenez ma pensée? Est-ce qu'il vaut mieux que Dieu retarde son jugement? Ou est-ce qu'il faut que Dieu agisse de suite, d'après vous? Eh bien voilà. Donc c'est une fois de plus, pour les chrétiens qui réfléchissent, ce qu'on est venu faire ce soir, pourquoi on est ici? Parce qu'on veut justement ressembler à Abraham et prier, parce que ce qu'on a lu ne peut que nous encourager à prier, et à prier parce qu'on voit qu'Abraham, cette discussion qu'il a avec le Seigneur, est la preuve que Dieu connaît bien Abraham, parce qu'il faut s'autoriser à faire « Seigneur, si à 50 justes, eh bien, sauve-les ». Voyez, alors quand Dieu dit qu'il va descendre pour savoir ce qui se passe, Dieu savait très bien ce qui se passait à Sodome. Il n'y a pas besoin de descendre du ciel, mais ça vous prouve. Vous savez le verset là? Il y a des versets, je ne sais pas si vous y réfléchissez. Quand il est dit, verset 21, je vous les lis parce que vous y reviendrez sur ce chapitre. C'est pour que nous apprenions à mieux connaître le Seigneur. Regardez au verset 21, regardez ce que Dieu dit. Il y a des gens qui ont dû se moquer de ce verset. Beaucoup de gens, les détracteurs, ils ont dû s'en faire des gorges chaudes, je vous le dis. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. On pourrait dire, mais Dieu, il est au ciel, il ne sait pas ce qui se passe à Sodome. Il faut qu'il descende pour voir. Mais non, ça veut dire que quand Dieu descend, les quelques fois où Dieu est descendu dans la Bible, laissez-moi vous dire qu'il valait mieux être du bon côté. Ça veut dire qu'il y a un moment où Dieu est obligé d'intervenir. Et si Dieu n'agit pas, comme beaucoup de gens disent, oui, si Dieu était puissant, si Dieu nous aimait, il agirait, je peux vous dire qu'il vaut mieux que Dieu n'agisse pas. Parce que quand il va agir, laissez-moi vous dire que beaucoup vont le regretter. Parce que ça ne sera pas pour manifester sa miséricorde, ça sera Ça sera pour manifester le jugement, et Dieu retarde le jugement. Pour qui? Pour un type, excusez-moi l'expression, comme Lot. Un type comme Lot, un type égoïste qui ne pense qu'à lui, un opportuniste qui pense qu'à... Il y en a des gens comme ça. Il y a des gens, ils pensent qu'à eux. Il y a des chrétiens, ils pensent qu'à eux. Ils pensent qu'à leur profit. C'est ce que voulait Lot. Lui s'imaginait que ça allait le bénir de choisir la vallée. On ne va pas revenir sur le contexte. Mais je peux vous dire qu'il a fait une grosse erreur. Mais Lot, écoutez bien mes frères et sœurs. Là, je m'adresse aux chrétiens. Lot, il va bénéficier de la bénédiction de tonton. Est-ce que ça vaut la peine de s'appliquer à chercher Dieu pour nos neveux, nos enfants? Est-ce que ça vaut la peine? Oui. Parce que si Dieu, parce que quand même on pourrait se dire, tiens, mais qu'est-ce que c'est? Il y a du favoritisme dans le royaume. Non, Dieu voulait épargner Lot parce que Abraham suppliait le Seigneur d'agir. C'est pour ça que ça ne peut que nous encourager à venir aux réunions de prière. Pourquoi des gens prient pas? Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est un combat. Et quand on prie pour nos enfants, ça ne vaut pas la peine? En fait, mes frères et sœurs, soyons sérieux. La prière, ça devrait être une non négociable. Dans le sens où Jésus a dit, ma maison sera quoi? Une maison de prière. Je viens, je ne prie pas peut-être à haute voix, mais quand la sœur a prié, je dis amen à sa prière. Elle a prié pour ses enfants. Seigneur, amen. Dans mon cœur, je dis amen. Ça plaît à Dieu, c'est comme ça. N'essayez pas de vous donner des explications, c'est comme ça. Dieu aime quand on prie ensemble. Et cette histoire, elle est là pour nous encourager qu'à cause d'un oncle pieux, Dieu a sauvé Abraham. Ça sous-entend, en plus, s'il est dit que les anges, Dieu a envoyé des anges quand même pour sortir, en plus il était têtu, il a fallu que les anges le tirent par la main. Vous allez me dire, c'est vrai que quand vous avez bâti, travaillé, peut-être qu'il avait construit une super belle maison, etc., c'était dur pour lui de quitter la maison, etc., je comprends encore un peu. Mais mes frères et sœurs, pour un égoïste, un opportuniste, un calculateur, un homme charnel comme Lot, Dieu retarde le jugement. Et si quelqu'un ose dire que Dieu n'est pas un Dieu d'amour, c'est qu'il y a un problème. Oui, Dieu est un Dieu d'amour. Et je voudrais vous encourager, vous qui vous posez des questions, pourquoi Dieu ci, pourquoi Dieu là, mais Dieu, vous soyons simples. Vous croyez que Dieu peut se tromper une seconde? Dieu sait ce qu'il fait, croyez-moi. Ah, vous savez, l'autre, c'était un drôle de bon. Avec les voisins, vous avez vu, c'était pas le top. Avec les gendres, vous avez vu quand il a parlé de Dieu? Avec les gendres, qu'est-ce qu'ils ont cru, les gendres? Qui plaisantait. Ça vous montre un peu le niveau de piété qu'avait cet homme. Quand il a parlé de Dieu, les gens, ils ont rigolé. Ça changeait quand même du temps où ils suivaient tonton quand même. Et ouais, que Dieu nous garde d'avoir des amis spirituels. Que Dieu nous donne la grâce d'avoir des amis spirituels. Croyez-moi, c'est important. Et pourtant, pour un homme comme ça, un homme, moi, j'aurais pas été certainement très ami avec l'autre. Mais je peux vous dire, Dieu retarde le jugement. Il n'a pas été épargné. On aurait pu dire, tiens, Dieu épargne le jugement pour un homme saint, pour un homme bien. Est-ce que ça aurait tenu debout? Vous voyez, on aurait pu dire, Dieu a épargné le jugement. Je ne sais pas, imaginez, Dieu, le jugement va descendre sur Babylone. Dans Babylone, qui c'est qu'il y a? Il y a Daniel. Attends. Dieu retarde le jugement pour Daniel. Est-ce que ça irait? Est-ce que ça tient debout? Ben oui. Mais là, pour un gars comme Lot, ouais. Que le Seigneur soit béni. Vous savez, moi, depuis dimanche, je médite ce texte et je prie pour que Dieu nous encourage à prier pour les rétrogrades. Parce qu'on pourrait se dire, les rétrogrades, ça va mal finir. Et je pense que pour beaucoup, ça va mal finir. Mais il ne faut pas se décourager. Parce que Dieu a le pouvoir d'envoyer des anges. Et dans l'évangile de Matthieu, de Luc, dans un des évangiles, ça c'est sûr, le Seigneur dit qu'il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Est-ce que ce n'est pas un sous-entendu de la même affaire, qu'avant l'enlèvement, notre grand Dieu travaillera le cœur des fils prodigues pour qu'ils reviennent? Non? Est-ce que ça tient debout ce que je vous dis? C'est qu'une supposition, mais moi je trouve que ça tient debout. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Moi je pense que ça tient debout. Mais ça c'est ma supposition. Dieu épargne. Dieu est un Dieu, il voulait épargner l'autre. Et Dieu veut nous épargner certaines choses. Est-ce que vous comprenez? Il faut le projeter maintenant, dans le quotidien, ce soir. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Est-ce qu'il peut m'épargner une douleur dans mon foyer? Est-ce qu'il peut m'épargner la maladie? Est-ce qu'il peut m'épargner le divorce? Est-ce que Dieu peut m'épargner des choses comme ça? Mais bien sûr, c'est ça. Des larmes. Vous trouvez, moi, je vois quand je vois des chrétiens qui me disent « je fais que pleurer ». Moi, je trouve quand même que bon, ça peut arriver, il y a un temps pour pleurer. Ne soyons pas extrémistes. Mais mes frères et sœurs, ce soir, et s'il y a quelqu'un qui croit que ce Dieu qui voulait épargner Lot, il se souvient aussi de vous. Ou est-ce qu'il se souvenait que de Lot? Est-ce qu'il peut se souvenir de toi, mon frère? Je ne sais pas si ça va bien avec Dieu. Je ne sais pas si tu comprends les prophéties. Je ne sais pas où tu en es de ta communion avec Dieu. Je ne sais pas si ça va, j'en sais rien, moi je ne sais pas. Mais mes frères et sœurs, quel encouragement. S'il a fait grâce à Lot, parce que Dieu, vous savez, ne fait pas de favoritisme. S'il a fait grâce à Lot, est-ce qu'il peut te faire grâce à toi si tu ne vas pas bien? Eh oui, c'est ça que ça veut dire. Et c'est merveilleux, parce que ça nous encourage par rapport à ceux qui ne vont pas bien, mais ça nous encourage à prier, parce que quand même, vous voyez, s'il y avait eu des justes, est-ce que, tiens, je vais poser une question bête, mais ça c'est mon réflexe de pasteur, est-ce que Lot, avec sa femme, deux, ses filles, ses gendres, ils n'étaient pas loin de 10? Oui ou non? Vous avez vu à quoi ça tenait? Est-ce que vous vous rendez compte? Pour un rien, on aurait pu éviter le jugement. Alors tout ça, c'est mon calcul à moi. Mais c'est pour vous expliquer que Dieu, il sait. Et que Dieu, il est tout puissant. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu, il a écouté la prière d'Abraham parce qu'Abraham intercédait. Vous voulez que Dieu sauve des neveux et nièces? Eh bien, ne vous découragez pas. Intercédez. Parce que non seulement, nous, on est là dans l'Ancien Testament, mais il faut maintenant se projeter dans le Nouveau Testament. Dieu n'a pas envoyé qu'Abraham. Dieu, il a envoyé quelqu'un de plus grand qu'Abraham qui intercède pour nous. C'est écrit dans la Bible, parce qu'il y a des gens qui font « oui, il n'y a personne qui prie pour moi ». Eh bien oui, ben, je vais vous dire ce soir, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a un autre grand Abraham qui prie pour vous. On va les lire, ces deux versets. Je veux qu'on les lise et je voudrais que vous les reteniez, parce que ce sont des versets qui vous garderont lorsque vous vous sentirez seul. Regardez, parce qu'il n'y a pas que l'Ancien Testament. Il y a le Nouveau Testament, ça sert d'illustration, l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, Hébreux 7, 25, regardez. Voilà notre grand Abraham à nous, si ce n'est pas beau. Regardez, Hébreux 7, 25. Regardez si c'est magnifique. Si vous le croyez, bien sûr. Si vous le croyez, vous serez restauré. Si vous ne le croyez pas, vous serez juste instruit. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, de Dieu par lui, étant toujours vivant. Pourquoi faire? Pour intercéder en leur faveur. Il n'y a personne qui dit amen? C'est pas grave, je continue. Romains 8, 34. Non, mais c'est des versets, vous savez, c'est merveilleux ces textes. Moi, franchement, dans ma famille, il y a plein de rétrogrades. Je vous assure que quand j'ai préparé cette réunion, ça m'a fait du bien. Romains 8, 34. Ce sont des versets qu'il faut donner aux gens également, aux chrétiens qui sont parfois découragés. Vous savez, on est tous à la même enseigne. Hein. Romains 8, 34. Regardez cette parole si elle est belle. Quand il n'y a personne avec vous. Romains 8, 34. Qui les condamnera, les élus? Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Voilà notre grand Abraham à nous. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu dans le ciel, un sauveur qui nous aime, qui retarde le jugement. Et bénissez-le s'il n'agit pas, comme vous l'avez demandé. Bénissez-le. Il sait ce qu'il fait. Si vous prenez une concordance, vous allez certainement, après cette prédication, être étonné, dans le bon sens, de voir que Dieu se souvient des siens. Il se souvient des malheureux. Psaume 9, verset 13, ne le cherchez pas. L'Éternel se souvient des malheureux. Psaume 115, verset 12. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. On pourrait prendre d'autres textes. Je pense à un certain type aussi qui n'était pas fameux, pire que Lot. Lui, il a eu l'audace de dire « Souviens-toi de moi ». Il n'a pas prié. Ce n'est pas une prière, ça. Enfin, dans l'esprit des pharisiens, ce n'est pas une prière. Il n'osait pas. Il a juste osé dire « Souviens-toi de moi quand tu reviendras ». Je sais pas, nous, on est habitués, mais ce n'est même pas une prière. Et le gars, il dit en plus, mais quand tu reviendras ? Il avait compris que Jésus était Dieu, qu'il allait venir régner. Et Jésus lui a pas dit, non, mais tu plaisantes, hein ? T'as tué des gens ? Est-ce que c'est un criminel ? C'est un criminel. Non, mais c'est maintenant que tu t'occupes de ton âme ? T'as mis des familles en l'air ? Est-ce qu'il aurait pu lui dire ça ? Ben oui. T'as détruit des familles ? Tu as gâché la vie des gens, et maintenant tu me demandes de m'occuper de toi. Qu'est-ce que Jésus lui répond ? On verra quand je reviendrai. Je m'occuperai de ton cas, ce n'est pas le moment. Vous vous rendez compte ce que Jésus lui dit ? Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Nous avons un grand Dieu, et au calvaire, il a tout accompli, le Seigneur. Et si quelqu'un ce soir se sentait seul, si quelqu'un ce soir se dit, mais moi, personne ne m'aide dans la prière, persévérez. Si vous avez un neveu qui est aussi tordu que Lot, ne vous découragez pas. Si vous connaissez des rétrogrades qui sont aussi loin de Dieu alors que le jugement vient, parce que franchement, il faut être vraiment loin de Dieu pour ne pas croire au jugement. Mes frères et sœurs, Dieu est capable de retarder son jugement pour sauver un de vos neveux. Amen. Dieu vous demande une chose, de comprendre qu'il est tout puissant. Vous vous rendez compte, les anges ont dit, on ne peut rien faire. On ne peut pas, tant que tu n'es pas parti, tu n'es pas parti. Que son nom soit béni. Vous savez, il y a des fois, on ne va pas bien. Ce genre d'histoire, ça fait quand même du bien. Oui ou non ? Notre Dieu, il est grand. Il sait ce qu'il fait. Il en sera de même. Alors la seule question à laquelle on pouvait répondre, est-ce qu'on a dépassé Sodome et Gomorre ? Si on a dépassé Sodome et Gomorre, bénissez Dieu qui n'intervienne pas. Parce que s'il retarde le jugement, c'est pour tous les lots que l'on connaît, ou nos enfants encore qui ne sont pas encore sauvés. Donc, il n'y a qu'une chose à faire, Seigneur, je te fais confiance. Vous lui faites confiance ? Il va bientôt descendre, il va venir pour nous prendre. Voilà la signification. Je vais descendre, ça veut dire qu'il allait agir. Laissez-moi vous dire que Jésus va descendre sur les nuées et il va nous prendre. Mais que Dieu fasse qu'il y ait plein de Lot avec nous, même si ces Lot se moquent de nous en ce moment. Ils se moquent de nous parce qu'on va à l'église, qu'est-ce qu'ils font ces chrétiens ? En plus le dimanche, ils y vont le mardi. Il y en a qui y vont des fois un peu plus. Ils sont complètement fadas ces gens. Mais s'ils savaient qu'on y va aussi pour prier pour eux. Et Dieu le voit. Ne vous découragez pas. Plus nous connaîtrons Dieu, plus nous pourrons nous aussi intercéder. Peut-être pas faire la même prière qu'Abraham, ça ne sert à rien, ne répétez pas les prières. Seigneur, s'il n'y a que 50 justes, sauve Toulouse. Oui, je crois que mimer ça, c'est la bêtise. Mais vous pouvez dire, Seigneur, je sais que tu te souviens des malheureux. Nous, les malheureux, ils nous fatiguent, ils nous énervent. Mais Dieu, il s'en souvient. Alléluia. Ça ne vous arrive pas qu'il y ait des gens qui vous énervent ? Ça ne vous arrive pas ? Si, soyons honnêtes. Mais le Seigneur, lui, il les aime. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, ne vous découragez pas. Il y a plus grand qu'Abraham. Il y a un Dieu qui vous aime et qui intercède pour vous. Alors, ne lui dites pas, Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi si ? Et pourquoi là ? Non. Dites-lui, Seigneur, merci. Non seulement d'être le Rédempteur, mais d'être le souverain sacrificateur qui intercède à la perfection. Ça vous rassure ? Ouais, quand vous ne savez pas comment prier, que c'est que des soupirs, ça ne vous arrive pas des fois, à la place de parler, de faire... Ça vous est jamais arrivé de faire... Je ne sais pas comment vous faites, mais ça peut prendre de l'intensité et du volume. Oui ou non ? Ça vous est jamais arrivé ? Ça vous fait rire ? Est-ce que c'est biblique ce que je vous dis ? C'est écrit où ? Comment ? On va le lire parce que je vois qu'il y en a certains qui me regardent en pensant que le pasteur... Non, mais vous savez, C'est important de savoir que des fois, ce n'est pas facile. Romains 8, versets 26 et 27. Vous savez, des fois, on a besoin. On a besoin de retrouver cette faveur. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est beau quand même, hein? Abraham, il savait. L'autre, il ne savait pas, mais quand même, Dieu s'est souvenu de lui. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide quand nous sommes super forts. C'est ça que vous avez? L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est comme les larmes. Il y a des soupirs qui en disent long au Seigneur. Dieu connaît la voix de nos larmes. Dieu connaît la voix de nos soupirs. C'est important, frères et sœurs. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Troisième texte. On pourrait faire une doctrine biblique, vous voyez, sur le fait que Jésus intercède pour les siens. On pourrait faire une doctrine. Oui, je vais l'ajouter dans le canon des Écritures. On pourrait. C'est sérieux. C'est rassurant. Alléluia. Alors on va demander au Seigneur qu'il nous aide. Dieu se souviendra de vous, mes frères et sœurs. Si vous le lui demandez, et si vous lui demandez qu'il s'occupe d'un de vos neveux, d'un de vos parents, il se souviendra de lui. Il voudra l'épargner. Il y en a un qui peut dire amen. Ouais. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Et nous savons qu'au milieu de nous, il y a plus grand qu'Abraham. Il y a toi, notre Seigneur, assis sur le trône, qui intercède à la perfection pour chacun de nous. Merci. Oui, tu te souviens de nous. Tu t'es souvenu de Lot, cet égoïste. Tu t'es souvenu de ce brigand, de ce criminel. Seigneur, c'est clair, nous le savons. Tu te souviendras de nous et de tous nos lots qui nous entourent. Merci pour les anges. Merci, Seigneur. Merci de t'occuper de nous et d'eux. Nous te prions, Seigneur, de nous donner cette sensibilité afin que nous comprenions davantage les prophéties, que nous comprenions davantage ta parole, que nous comprenions que si tu retardes le jugement, c'est pour le bien de tout le monde. Seigneur, merci. Dans cette génération perverse et corrompue, de nous garder à l'abri, comme tu as gardé Abraham dans sa maison, à l'abri du jugement, je sais que tu garderas tous ceux qui sont à l'abri sous ton sang précieux. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.